Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour cette première émission de l'année 2011. Fidèle au poste, nous cédons la parole à notre sœur Marie-Claude Savard du Centre d'études Alain Kardec, Paix et Amour de Québec au Canada, avec qui nous continuerons la lecture de l'Évangile selon le spiritisme. Cette lecture sera immédiatement suivie par notre premier agenda des activités prévues chez nos divers partenaires. Pour émettre des commentaires sur nos émissions ou pour nous proposer des sujets, vous pouvez nous laisser un message sur notre boîte vocale en formant depuis la Belgique le 04 227 60 76 ou le 032 4 227 60 76 au départ de la France et 0 352 4 227 60 76 au départ du Grand-Duché de Luxembourg ou tout simplement consultez notre site internet. En ce début d'année, nous en profitons pour vous souhaiter, à vous qui nous écoutez aujourd'hui, ainsi qu'à vos familles respectives, une excellente année 2011, ainsi qu'une très bonne écoute. Aujourd'hui, notre sœur Marie-Claude nous invite à poursuivre la lecture de l'Évangile selon le spiritisme par le chapitre 1er « Je ne suis point venu détruire la loi ».
L'Évangile selon le spiritisme. Chapitre 1. Je ne suis point venu détruire la loi. Ne pensez point que je sois venu détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis point venu les détruire, mais les accomplir. Car je vous dis en vérité que le ciel et la terre ne passeront point que tout ce qui est dans la loi ne soit accompli parfaitement, jusqu'à un seul iota et à un seul point. Saint Matthieu, chapitre 5, versets 17-18. Moïse. Il y a deux parties distinctes dans la loi mosaïque, la loi de Dieu, promulguée par le mont Sinaï, et la loi civile, ou disciplinaire, établie par Moïse. L'une est invariable, l'autre, appropriée aux mœurs et au caractère du peuple, se modifie avec le temps. La loi de Dieu est formulée dans les 10 commandements suivants. 1. Je suis le Seigneur, votre Dieu, qui vous ai tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. Vous n'aurez point d'autre Dieu étranger devant moi. Vous ne ferez point d'image taillée, ni aucune figure de tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, ni de tout ce qui est dans les eaux sous la terre. Vous ne les adorerez point, et vous ne leur rendrez point le souverain culte. 2. Vous ne prendrez point en vain le nom du Seigneur, votre Dieu. 3. Souvenez-vous de sanctifier le jour du sabbat. 4. Honorez votre père et votre mère, afin que vous viviez longtemps sur la terre que le Seigneur votre Dieu vous donnera. 5. Vous ne tuerez point. 6. Vous ne commettrez point d'adultère. 7. Vous ne déroberez point. 8. Vous ne porterez point de faux témoignages contre votre prochain. 9. Vous ne désirerez point la femme de votre prochain. 10. Vous ne désirerez point la maison de votre prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune de toutes les choses qui lui appartiennent. Cette loi est de tous les temps et de tous les pays, et a, par cela même, un caractère divin. Tout autre sont les lois établies par Moïse, obligé de maintenir par la crainte un peuple naturellement turbulent et indiscipliné, chez lequel il avait à combattre des abus enracinés et des préjugés puisés dans les servitudes d'Égypte. Pour donner de l'autorité à ces lois, il a dû leur attribuer une origine divine, ainsi que l'ont fait tous les législateurs des peuples primitifs. L'autorité de l'homme devait s'appuyer sur l'autorité de Dieu. Mais l'idée d'un Dieu terrible pouvait seul impressionner des hommes ignorants, en qui le sens moral et le sentiment d'une exquise justice étaient encore peu développés. Il est bien évident que celui qui avait mis dans ses commandements « Tu ne tueras point, tu ne feras point de tort à ton prochain » ne pouvait se contredire en faisant un devoir de l'extermination. Les lois mosaïques, proprement dites, avaient donc un caractère essentiellement transitoire. Christ. Jésus n'est point venu détruire la loi, c'est-à-dire la loi de Dieu, Il est venu l'accomplir, c'est-à-dire la développer, lui donner son véritable sens et l'approprier au degré d'avancement des hommes. C'est pourquoi on trouve dans cette loi le principe des devoirs envers Dieu et envers le prochain, qui fait la base de sa doctrine. Quant aux lois de Moïse, proprement dites, elle les a au contraire profondément modifiées, soit dans le fond, soit dans la forme. Il a constamment combattu l'abus des pratiques extérieures et les fausses interprétations, et il ne pouvait pas leur faire subir une réforme plus radicale qu'en les réduisant à ces mots. Aimez Dieu par-dessus toute chose, et son prochain comme soi-même, et en disant, c'est là toute la loi et les prophètes. Par ces paroles, le ciel et la terre ne passeront point que tout ne soit accompli jusqu'à un seul iota. Jésus a voulu dire qu'il fallait que la loi de Dieu reçût son accomplissement, c'est-à-dire fût pratiquée sur toute la terre, dans toute sa pureté, avec tous ses développements et toutes ses conséquences. Car que servirait d'avoir établi cette loi si hommes étant les enfants de Dieu sont, sans distinction, l'objet d'une même sollicitude? Mais le rôle de Jésus n'a pas été simplement celui d'un législateur moraliste, sans autre autorité que sa parole. Il est venu accomplir les prophéties qui avaient annoncé sa venue. Il tenait son autorité de la nature exceptionnelle de son esprit et de sa mission divine. Il est venu apprendre aux hommes que la vraie vie n'est pas sur la terre, mais dans le royaume des cieux. Leur enseigner la voie qui y conduit, les moyens de se réconcilier avec Dieu, et les pressentir sur la marche des choses à venir pour l'accomplissement des destinées humaines. Cependant, il n'a pas tout dit, et sur beaucoup de points, il s'est borné à déposer le germe de vérité qu'il déclare lui-même ne pouvoir être encore comprise. Il a parlé de tout, mais en termes plus ou moins explicites. Pour saisir le sens caché de certaines paroles, il fallait que de nouvelles idées et de nouvelles connaissances vinssent en donner la clé, et ces idées ne pouvaient venir avant un certain degré de maturité de l'esprit humain. La science devait puissamment contribuer à l'éclosion et au développement de ces idées. Il fallait donc donner à la science le temps de progresser. Le spiritisme. Le spiritisme est la science nouvelle qui vient révéler aux hommes par des preuves irrécusables l'existence et la nature du monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel. Il nous le montre non plus comme une chose surnaturelle, mais au contraire, comme une des forces vives et incessamment agissantes de la nature, comme la source d'une foule de phénomènes incompris jusqu'alors et rejetés, par cette raison, dans le domaine du fantastique et du merveilleux. C'est à ces rapports que le Christ fait allusion en maintes circonstances, et c'est pourquoi beaucoup de choses qu'il a dites sont restées inintelligibles ou ont été faussement interprétées. Le spiritisme est la clé à l'aide de laquelle tout s'explique avec facilité. La loi de l'Ancien Testament est personnifiée dans Moïse. Celle du Nouveau Testament l'est dans le Christ. Le spiritisme est la troisième révélation de la loi de Dieu, mais il n'est personnifié dans aucun individu parce qu'il est le produit de l'enseignement donné, non par un homme, mais par les esprits, qui sont les voies du ciel, sur tous les points de la terre, et par une multitude innombrable d'intermédiaires. C'est en quelque sorte un être collectif comprenant l'ensemble des êtres du monde spirituel, venant chacun apporter aux hommes le tribut de leur lumière pour leur faire connaître ce monde et le sort qui les y attend. De même que Christ a dit, « Je ne viens point détruire la loi, mais l'accomplir. » Le spiritisme dit également, je ne viens point détruire la loi chrétienne, mais l'accomplir. Il n'enseigne rien de contraire à ce qu'enseigne le Christ, mais il développe, complète et explique, en termes clairs pour tout le monde, ce qui n'avait été dit que sous la forme allégorique. Il vient accomplir au temps prédit ce que Christ a annoncé et préparer l'accomplissement des choses futures. Il est donc l'œuvre du Christ qui préside lui-même, ainsi qu'il l'a pareillement annoncé, à la régénération qui s'opère et prépare le règne de Dieu sur la terre. Alliance de la science et de la religion. La science et la religion sont les deux leviers de l'intelligence humaine. L'une révèle les lois du monde matériel et l'autre les lois du monde moral, mais les unes et les autres, ayant le même principe, qui est Dieu, ne peuvent se contredire. Si elles sont la négation l'une de l'autre, l'une a nécessairement tort et l'autre raison, car Dieu ne peut vouloir détruire son propre ouvrage. L'incompatibilité qu'on a cru voir entre ces deux ordres d'idées tient à un défaut d'observation et à trop d'exclusivisme de part et d'autre. De là un conflit d'où sont nés l'incrédulité et l'intolérance. Les temps sont arrivés où les enseignements du Christ doivent recevoir leur complément, où le voile jeté à dessein sur quelques parties de cet enseignement doit être levé, où la science, cessant d'être exclusivement matérialiste, doit tenir compte de l'élément spirituel, et où la religion, cessant de méconnaître les lois organiques et immuables de la matière, ces deux forces, s'appuyant l'une sur l'autre et marchant de concert, se prêteront un mutuel appui. Alors, la religion, ne recevant plus de démenti de la science, acquerra une puissance inébranlable, parce qu'elle sera d'accord avec la raison et qu'on ne pourra lui opposer l'irrésistible logique des faits. La science et la religion n'ont pu s'entendre jusqu'à ce jour, parce que, chacune envisageant les choses à son point de vue exclusif, elles se repoussaient mutuellement. Il fallait quelque chose pour combler le vide qui les séparait, un trait d'union qui les rapprocha. Ce trait d'union est dans la connaissance des lois qui régissent le monde spirituel et ses rapports avec le monde corporel, lois tout aussi immuables que celles qui règnent le mouvement des astres et l'existence des êtres. Ces rapports, une fois constatés par l'expérience, une lumière nouvelle s'est faite. La foi s'est adressée à la raison n'a rien trouvé d'illogique dans la foi, et le matérialisme a été vaincu. Mais en cela, comme en toute chose, il y a des gens qui restent en arrière, jusqu'à ce qu'ils soient entraînés par le mouvement général qui les écrase s'ils veulent y résister au lieu de s'y abandonner. C'est toute une révolution morale qui s'opère en ce moment et travaille les esprits. Après s'être élaborée pendant plus de 18 siècles, elle touche à son accomplissement et va marquer une nouvelle ère dans l'humanité. Les conséquences de cette révolution sont faciles à prévoir. Elle doit apporter, dans les rapports sociaux, d'inévitables modifications auxquelles il n'est au pouvoir de personne de s'opposer, parce qu'elles sont dans les desseins de Dieu et qu'elles ressortent de la loi du progrès qui est une loi de Dieu. Instruction des esprits, l'ère nouvelle. Dieu est unique, et Moïse est l'esprit que Dieu a envoyé en mission pour le faire connaître, non seulement aux Hébreux, mais encore au peuple païen. Le peuple hébreu a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour faire sa révélation par Moïse et par les prophètes, et les vicissitudes de ce peuple étaient faites pour frapper les yeux et faire tomber le voile qui cachait aux hommes la divinité. Les commandements de Dieu, donnés par Moïse, portent les germes de la morale chrétienne la plus étendue. Les commentaires de la Bible en rétrécissaient le sens, parce que, mise en œuvre dans toute sa pureté, elle n'aurait pas été comprise alors. Mais les 10 commandements de Dieu n'en restaient pas moins comme le frontispice brillant, comme le phare qui devait éclairer l'humanité dans la route qu'elle avait à parcourir. La morale enseignée par Moïse était appropriée à l'état d'avancement dans lequel se trouvaient les peuples, qu'elle était appelée à régénérer, et ces peuples, à demi sauvages quant au perfectionnement de leur âme, n'auraient pas compris qu'on pût adorer Dieu autrement que par des holocaustes, ni qu'il fût fallu faire grâce à un ennemi. Leur intelligence, remarquable au point de vue de la matière, et même sous celui des arts et des sciences, était très arriérée en moralité, et ne se seraient pas convertis sous l'empire d'une religion entièrement spirituelle. Il leur fallait une représentation semi-matérielle, telle que l'offrait alors la religion hébraïque. C'est ainsi que les holocaustes parlaient à leur sens, pendant que l'idée de Dieu parlait à leur esprit. Le Christ a été l'initiateur de la morale la plus pure, la plus sublime, de la morale évangélique chrétienne qui doit rénover le monde, rapprocher les hommes et les rendre frères, qui doit faire jaillir de tous les cœurs humains la charité et l'amour du prochain, et créer entre tous les hommes une solidarité commune, d'une morale enfin qui doit transformer la terre et en faire un séjour pour des esprits supérieurs à ceux qui l'habitent aujourd'hui. C'est la loi du progrès à laquelle la nature est soumise, qui s'accomplit, et le spiritisme est le levier dont Dieu se sert pour faire avancer l'humanité. Les temps sont arrivés où les idées morales doivent se développer pour accomplir les progrès qui sont dans les desseins de Dieu. Elles doivent suivre la même route que les idées de liberté ont parcourue, et qui en était l'avant-coureur. Mais il ne faut pas croire que ce développement se fera sans lutte. Non, elles ont besoin, pour arriver à maturité, de secousses et de discussions, afin qu'elles attirent l'attention des masses. Une fois l'attention fixée, la beauté et la sainteté de la morale frapperont les esprits. Ils s'attacheront à une science qui leur donne la clé de la vie future et leur ouvre les portes du bonheur éternel. C'est Moïse qui a ouvert la voie, Jésus a continué l'œuvre, le spiritisme l'achèvera. Un esprit israélite, Mulas, 1861. Un jour, Dieu, dans sa charité inépuisable, permit à l'homme de voir la vérité percer les ténèbres. Ce jour était l'avènement du Christ. Après la lumière vive, les ténèbres sont revenues. Le monde, après des alternatives de vérité et d'obscurité, se perdait de nouveau. Alors, semblables aux prophètes de l'Ancien Testament, les esprits se mettent à parler et à vous avertir. Le monde est ébranlé dans ses bases. Le tonnerre grondera. Soyez fermes. Le spiritisme est d'ordre divin, puisqu'il repose sur les lois mêmes de la nature. Et croyez bien que tout ce qui est d'ordre divin a un but grand et utile. Votre monde se perdait, la science, développée aux dépens de ce qui est d'ordre moral, tout en vous menant au bien-être matériel, tournait au profit de l'esprit des ténèbres. Vous le savez, chrétiens, le cœur et l'amour doivent marcher unis à la science. Le règne du Christ, hélas, après 18 siècles et malgré le sang de tant de martyrs, n'est pas encore venu. Chrétiens, revenez au Maître qui veut vous sauver. Tout est facile à celui qui croit et qui aime. L'amour le remplit d'une joie ineffable. Oui, mes enfants, le monde est ébranlé. Les bons esprits vous le disent assez. Ployez sous le souffle avant-coureur de la tempête, afin de n'être point renversé. C'est-à-dire, préparez-vous, et ne ressemblez pas aux vierges folles qui furent prises au dépourvu à l'arrivée de l'époux. La révolution qui s'apprête est plutôt morale que matérielle. Les grands esprits, messagers divins, soufflent la foi pour que vous tous, ouvriers éclairés et ardents, fassiez entendre votre humble voix. Car vous êtes le grain de sable, mais sans grain de sable, il n'y aurait pas de montagne. Ainsi donc que cette parole, « Nous sommes petits », n'ait plus de sens pour vous. À chacun sa mission, à chacun son travail. La fourmi ne construit-elle pas l'édifice de sa république? Et des animalcules imperceptibles n'élèvent-ils pas des continents? La nouvelle croisade est commencée, apôtre de la paix universelle et non d'une guerre. Saint Bernard moderne, regardez marcher en avant. La loi des mondes est la loi du progrès. Fénelon, Poitiers, 1861. Saint Augustin est l'un des plus grands vulgarisateurs du spiritisme. Il se manifeste presque partout. Nous en trouvons la raison dans la vie de ce grand philosophe chrétien. Il appartient à cette vigoureuse phalange des pères de l'Église auxquels la chrétienté doit ses plus solides assises. Comme beaucoup, il fut arraché au paganisme disons mieux, à l'impiété la plus profonde, par l'éclat de la vérité. Quand, au milieu de ses débordements, il sentit en son âme cette vibration étrange qui le rappela à lui-même, et lui fit comprendre que le bonheur était ailleurs que dans des plaisirs énervants et fugitifs, quand, enfin, sur son chemin de Damas, il entendit, lui aussi, la voix sainte lui crier « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Il s'écria « mon Dieu, pardonnez-moi, je crois, je suis chrétien. » Et depuis lors, il devint un des plus fermes soutiens de l'Évangile. On peut lire dans les confessions remarquables que nous a laissées cet éminent esprit, les paroles caractéristiques et prophétiques en même temps qu'il prononça après avoir perdu sainte Monique. « Je suis convaincu que ma mère reviendra me visiter et me donner des conseils en me révélant ce qui nous attend dans la vie future. » Quel enseignement dans ces paroles et quelle prévision éclatante de la future doctrine! C'est pour cela qu'aujourd'hui, voyant l'heure arriver pour la divulgation de la vérité qu'il avait pressentie jadis, il s'en est fait l'ardent propagateur et se multiplie, pour ainsi dire, pour répondre à tous ceux qui l'appellent. Eraste, disciple de saint Paul, Paris, 1863. Remarque. Saint Augustin vient-il donc renverser ce qu'il a élevé? Non, assurément. Mais comme tant d'autres, il voit avec les yeux de l'esprit ce qu'il ne voyait pas comme homme. Son âme dégagée entrevoit de nouvelles clartés. Elle comprend ce qu'elle ne comprenait pas auparavant. De nouvelles idées lui ont révélé le véritable sens de certaines paroles. Sur la terre, il jugeait les choses selon les connaissances qu'il possédait. Mais, lorsqu'une nouvelle lumière s'est faite pour lui, il a pu les juger plus sainement. C'est ainsi qu'il a dû revenir sur sa croyance concernant les esprits incubes et succubes, et sur l'anathème qu'il avait lancé comme la théorie des antipodes. Maintenant que le christianisme lui apparaît dans toute sa pureté, il peut, sur certains points, penser autrement que de son vivant. Sans cesser d'être l'apôtre chrétien, il peut, sans renier sa foi, se faire le propagateur du spiritisme, parce qu'il y voit l'accomplissement des choses prédites. En le proclamant aujourd'hui, il ne fait que nous ramener à une interprétation plus saine et plus logique des textes. Ainsi en est-il des autres esprits qui se trouvent dans une position analogue.
Terminons notre lecture du jour par le chapitre 2 de l'Évangile selon le spiritisme. Mon royaume n'est pas de ce monde.
Chapitre 2. Mon royaume n'est pas de ce monde. Pilate, étant donc rentré dans le palais, et ayant fait venir Jésus, lui dit, « Êtes-vous le roi des Juifs ? » Jésus lui répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes gens auraient combattu pour m'empêcher de tomber dans les mains des Juifs. Mais mon royaume n'est point ici. » Pilate lui dit alors, « Vous êtes donc roi ? » Jésus lui repartit, « Vous le dites, je suis roi. Je ne suis né et ne suis venu dans ce monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. » Saint Jean, chapitre 18, versets 33, 36, 37. La vie future. Par ces paroles, Jésus désigne clairement la vie future, qu'il présente en toutes circonstances comme le terme où aboutit l'humanité, et comme devant faire l'objet des principales préoccupations de l'homme sur la terre. Toutes ces maximes se rapportent à ce grand principe. Sans la vie future, en effet, la plupart de ces préceptes de morale n'auraient aucune raison d'être. C'est pourquoi ceux qui ne croient pas à la vie future, se figurant qu'ils ne parlent que de la vie présente, ne les comprennent pas ou les trouvent puériles. Ce dogme peut donc être considéré comme le pivot de l'enseignement du Christ. C'est pourquoi il est placé un des premiers en tête de cet ouvrage, parce qu'il doit être le point de mire de tous les hommes, seul il peut justifier les anomalies de la vie terrestre et s'accorder avec la justice de Dieu. Les Juifs n'avaient que des idées très incertaines touchant la vie future. Ils croyaient aux anges, qu'ils regardaient comme les êtres privilégiés de la création, mais ils ne savaient pas que les hommes puissent devenir un jour des anges et partager leur félicité. Selon eux, l'observation des lois de Dieu était récompensée par les biens de la terre, la suprématie de leur nation, les victoires sur leurs ennemis, les calamités publiques et les défaites étaient le châtiment de leur désobéissance. Moïse ne pouvait en dire davantage à un peuple pasteur ignorant, qui devait être touché avant tout par les choses de ce monde. Plus tard, Jésus est venu leur révéler qu'il est un autre monde où la justice de Dieu suit son cours. C'est ce monde qu'il promet à ceux qui observent les commandements de Dieu et où les bons trouveront leur récompense. Ce monde est son royaume, c'est là qu'il est dans toute sa gloire et où il va retourner en quittant la terre. Cependant, Jésus, conformant son enseignement à l'état des hommes de son époque, n'a pas cru devoir leur donner une lumière complète qui les eût éblouis sans les éclairer, parce qu'ils ne l'auraient pas comprise. Il s'est borné à poser en quelque sorte la vie future en principe, comme une loi de nature à laquelle nul ne peut échapper. Tout chrétien croit donc forcément à la vie future, mais l'idée que beaucoup s'en font est vague, incomplète, et par cela même fausse en plusieurs points. Pour un grand nombre, ce n'est qu'une croyance sans certitude absolue, de là les doutes et même l'incrédulité. Le spiritisme est venu compléter en ce point, comme en beaucoup d'autres, l'enseignement du Christ, lorsque les hommes ont été mûrs pour comprendre la vérité. Avec le spiritisme, la vie future n'est plus un simple article de foi, une hypothèse. C'est une réalité matérielle démontrée par les faits, car ce sont les témoins oculaires qui viennent la décrire dans toutes ses phases et dans toutes ses péripéties, de telle sorte que non seulement le doute n'est plus possible, mais l'intelligence la plus vulgaire peut se la représenter sous son aspect véritable. Comme on se représente un pays dont on lit une description détaillée, or cette description de la vie future est tellement circonstanciée, les conditions d'existence heureuses ou malheureuses de ceux qui s'y trouvent sont si rationnelles qu'on se dit malgré soi qu'il ne peut être autrement, et que c'est bien là la vraie justice de Dieu. La royauté de Jésus. Le royaume de Jésus n'est pas de ce monde. C'est ce que chacun comprend. Mais sur la terre, n'a-t-il pas aussi une royauté? Le titre de roi n'implique pas toujours l'exercice du pouvoir temporel. Il est donné d'un consentement unanime à celui que son génie place au premier rang dans un ordre d'idées quelconque, qui domine son siècle et influe sur le progrès de l'humanité. C'est dans ce sens qu'on dit « le roi ou le prince des philosophes, des artistes, des poètes, des écrivains, etc. » Cette royauté, née du mérite personnel, consacrée par la postérité, n'a-t-elle pas souvent une prépondérance bien autrement grande que celle qui porte le diadème? Elle est impérissable, tandis que l'autre est le jouet des vicissitudes. Elle est toujours bénie des générations futures, tandis que l'autre est parfois maudite. La royauté terrestre finit avec la vie. La royauté morale gouverne encore et surtout après la mort. À ce titre, Jésus n'est-il pas roi, plus puissant que même potentat? C'est donc avec raison qu'il disait à Pilate, « Je suis roi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. » Le point de vue. L'idée nette et précise qu'on se fait de la vie future donne une foi inébranlable dans l'avenir. Et cette foi a des conséquences immenses sur la moralisation des hommes en ce qu'elle change complètement le point de vue sous lequel ils envisagent la vie terrestre. Pour celui qui se place, par la pensée, dans la vie spirituelle qui est indéfinie, la vie corporelle n'est plus qu'un passage, une courte station dans un pays ingrat. Les vicissitudes et les tribulations de la vie ne sont plus que des incidents qu'il prend avec patience, parce qu'il sait qu'ils ne sont que de courte durée et doivent être suivis d'un état plus heureux. La mort n'a plus rien d'effrayant. Ce n'est plus la porte du néant, mais celle de la délivrance qui ouvre à l'exilé l'entrée d'un séjour de bonheur et de paix. Sachant qu'il est dans une place temporaire et non définitive, il prend les soucis de la vie avec plus d'indifférence, et il en résulte pour lui un calme d'esprit qui en adoucit l'amertume. Par le simple doute sur la vie future, l'homme reporte toutes ses pensées sur la vie terrestre. Incertain de l'avenir, il donne tout au présent, n'entrevoyant pas des biens plus précieux que ceux de la terre. Il est comme l'enfant qui ne voit rien au-delà de ses jouets. Pour se les procurer, il n'est rien qu'il ne fasse. La perte du moindre de ses biens est un chagrin cuisant, un mécompte, un espoir déçu, une ambition non satisfaite, une injustice dont il est victime. L'orgueil ou la vanité blessée sont autant de tourments qui font de sa vie une angoisse perpétuelle. Se donnant ainsi volontairement une véritable torture de tous les instants. Prenant son point de vue de la vie terrestre au centre de laquelle il est placé, tout prend autour de lui de vastes proportions. Le mal qu'il atteint, comme le bien qui incombe aux autres, tout acquiert à ses yeux une grande importance. De même, à celui qui est dans l'intérieur d'une ville, tout paraît grand. Les hommes qui sont en haut de l'échelle, comme les monuments, mais qu'il se transporte sur une montagne, hommes et choses vont lui paraître bien petits. Ainsi en est-il de celui qui envisage la vie terrestre du point de vue de la vie future. L'humanité, comme les étoiles du firmament, se perd dans l'immensité. Il s'aperçoit alors que grands et petits sont confondus comme les fourmis sur une motte de terre, que prolétaires et potentats sont de la même taille, et il plaint ces éphémères qui se donnent tant de soucis pour y conquérir une place qui les élève si peu et qu'ils doivent garder si peu de temps. C'est ainsi que l'importance attachée au bien terrestre est toujours en raison inverse de la foi en la vie future. Si tout le monde pensait de la sorte, dira-t-on, nul ne s'occupant plus des choses de la terre, tout y péricliterait. Non. L'homme cherche instinctivement son bien-être et, même avec la certitude de n'être que pour peu de temps à une place, encore veut-il y être le mieux ou le moins mal possible. Il n'est personne qui, trouvant une épine sous sa main, ne l'ôte pour ne pas se piquer. Or, la recherche du bien-être force l'homme à améliorer toute chose, poussé qu'il est par l'instinct du progrès et de la conservation, qui est dans les lois de la nature. Il travaille donc par besoin, par goût et par devoir, et en cela il accomplit les vues de la Providence qui l'a placé sur la terre à cette fin. Seulement celui qui considère l'avenir n'attache au présent qu'une importance relative, et se console aisément de ses échecs en pensant à la destinée qui l'attend. Dieu ne condamne donc point les jouissances terrestres, mais l'abus de ces jouissances au préjudice des choses de l'âme. C'est contre cet abus que sont prémunis ceux qui s'appliquent cette parole de Jésus. Mon royaume n'est pas de ce monde. Celui qui s'identifie avec la vie future est semblable à un homme riche qui perd une petite somme sans s'en émouvoir. Celui qui concentre ses pensées sur la vie terrestre est comme un homme pauvre qui perd tout ce qu'il possède et se désespère. Le spiritisme élargit la pensée et lui ouvre de nouveaux horizons. Au lieu de cette vue étroite et mesquine qui la concentre sur la vie présente, qui fait de l'instant qu'on passe sur la terre l'unique et fragile pivot de l'avenir éternel, il montre que cette vie n'est qu'un anneau dans l'ensemble harmonieux et grandiose de l'œuvre du Créateur. Il montre la solidarité qui relie toutes les existences du même être, tous les êtres d'un même monde et les êtres de tous les mondes. Il donne ainsi une base et une raison d'être à la fraternité universelle, tandis que la doctrine de la création de l'âme, au moment de la naissance de chaque corps, rend tous les êtres étrangers les uns aux autres. Cette solidarité des parties d'eux-mêmes, tout, explique ce qui est inexplicable, si l'on ne considère qu'un seul point. C'est cet ensemble qu'au temps du Christ, les hommes n'auraient pu comprendre. C'est pourquoi il en a réservé la connaissance à d'autres temps. Instruction des esprits. une royauté terrestre. Qui mieux que moi peut comprendre la vérité de cette parole de notre Seigneur? Mon royaume n'est pas de ce monde. L'orgueil m'a perdu sur la terre. Qui donc comprendrait le néant des royaumes d'ici-bas si je ne le comprenais pas? Qu'ai-je emporté avec moi de ma royauté terrestre? Rien, absolument rien. Et comme pour rendre la leçon plus terrible, elle ne m'a pas suivi jusqu'à la tombe. Reine, j'étais parmi les hommes. Reine, je croyais entrer dans le royaume des cieux. Quelle désillusion! Quelle humiliation quand, au lieu d'y être reçue en souveraine, j'ai vu au-dessus de moi, mais bien au-dessus, des hommes que je croyais bien petits et que je méprisais, parce qu'ils n'étaient pas de noble sang. Oh! Qu'alors j'ai compris la stérilité des honneurs et des grandeurs que l'on recherche avec tant d'avidité sur la terre. Pour se préparer une place dans ce royaume, il faut l'abnégation, l'humilité, la charité dans toute sa céleste pratique, la bienveillance pour tous. On ne vous demande pas ce que vous avez été, quel rang vous avez occupé, mais le bien que vous avez fait, les larmes que vous avez essuyées. Ô Jésus, tu l'as dit, ton royaume n'est pas ici-bas, car il faut souffrir pour arriver au ciel, et les marches du trône ne vous en rapprochent pas. Ce sont les sentiers les plus pénibles de la vie qui y conduisent. Cherchez-en donc la route à travers les ronces et les épines, et non parmi les fleurs. Les hommes courent après les biens terrestres, comme s'ils devaient les garder toujours, mais ici plus d'illusions. Ils s'aperçoivent bientôt qu'ils n'ont saisi qu'une ombre, et ont négligé les seuls biens solides et durables, les seuls qui leur profitent au céleste séjour, les seuls qui peuvent leur ouvrir l'accès. Ayez pitié de ceux qui n'ont pas gagné le royaume des cieux. Aidez-les de vos prières, car la prière rapproche l'homme du Très-Haut. C'est le trait d'union entre le ciel et la terre, ne l'oubliez pas. Une reine de France, Le Havre, 1863.
Nous voici arrivés à l'agenda des activités, très partielles il faut le dire, en Belgique, en France et au Grand-Duché de Luxembourg. Nos sœurs et frères de l'Association du Chemin organisent le samedi 15 janvier 2011, dès 14h30, une conférence autour du thème « Qu'est-ce que l'EFT ?» Une direction peut-être pour cette technique de libération émotionnelle, ou mieux connue encore sous l'appellation de technique psycho-énergétique. Ils vous répondront avec plaisir en la salle AEP 5, rue de l'Artisanat, à 69 290 Grécieux-Lavarenne. Pour toute information complémentaire ou inscription éventuelle, merci de bien vouloir consulter le site de cette association à l'adresse suivante http://www.du-chemin.org. L'association parisienne d'études spirites, dirigée par notre très estimable sœur Anita Becquerel, vous fait part de cette très prochaine conférence ouverte au public prévue en ce mois de janvier. Le vendredi 7 janvier de 20h à 22h, autour du thème « Médiumnité sans complexe ». Quelques pistes peut-être pour mieux comprendre les appels de votre médiumnité. Le samedi 8 janvier de 11h à 13h, spiritisme et médiumnité, questions et réponses. Le samedi 8 janvier toujours, le matérialisme nous piège-t-il de 15h à 17h. Vendredi 14 janvier de 20h à 22h, les responsabilités du travail du médium, une expérience partagée. Le vendredi 21 janvier de 20h à 22h, quand l'obsession est là, quelques mécanismes et résolutions. Vendredi 21 janvier. Le samedi 28 janvier de 15h à 17h, médiumnité de voyance, une faculté riche et exigeante, surtout lorsque médium est face à l'éthique spirit. Pour toute information complémentaire ou inscription éventuelle, merci de consulter le site de l'association à l'adresse suivante http://www.apes.asso.fr. en Belgique. L'Union Spirit Belge a le plaisir de vous inviter à son goûter du samedi 12 février 2011, et ceci dès 15h. Nous vous attendrons nombreux afin de passer ensemble un agréable moment dans une ambiance conviviale. Ce goûter aura lieu au siège social de l'Union, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. La participation aux frais sera de 4 euros par personne. Inscription avant le 7 février 2011 avec le formulaire d'inscription disponible sur le site de l'USB à l'adresse suivante http://www.spirit.be ou directement via les responsables des groupes, centres ou cercles philosophiques. Avis aux personnes et associations. Vous êtes responsable d'un groupe, d'une association ou simple particulier. Vous connaissez des personnes qui aimeraient en savoir plus sur la philosophie spirit. Vous avez un local, une pièce où vous pouvez nous en renseigner un. Si vous le souhaitez, nous pouvons venir faire une conférence de divulgation dans votre région afin de vous informer sur ce qu'est réellement la philosophie spirit et toutes les valeurs morales qu'elle renferme. Mieux encore, il n'y a pas de groupe spirit dans votre région. Vous avez envie d'en former un. Nous pouvons vous y aider en vous apportant un support didactique et humain pour la formation de celui-ci, même familial. Si vous êtes intéressé, vous pouvez nous contacter par courrier ou courriel à l'adresse suivante Union Spirit Belge 43 rue Maguin à 4000 Liège ou par courriel usb@spirit.be. Cette émission se termine donc ici. Pour rappel, notre démarche est de mieux faire comprendre le spiritisme. Nous sommes donc à votre disposition pour répondre aux questions que vous vous posez ou que la lecture des ouvrages d'Allan Kardec vous suggère. Vous pouvez également poser ces questions par email, de manière tout à fait anonyme, si vous le souhaitez, à l'adresse radio@spirit.be. Nous y répondrons avec plaisir. Notre répondeur téléphonique, le 00 32 4 227 60 76, est également à votre disposition si vous souhaitez laisser vos questions. Si par contre vous préférez nous écrire, nous répondrons à vos demandes lors d'une de nos prochaines émissions. Vous pouvez nous envoyer votre courrier à l'attention du président de l'Union Spirit Belge, M. Jean-Paul Évrard, 43 rue Maguin à 4000 Liège, Belgique. Merci de votre attention et à bientôt.